Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous. Le Rassemblement national est persécuté. C'est la rengaine entonnée par les proches de Marine Le Pen qui donnera un discours cet après-midi à Fréjus. Rentrée politique, petit format, à cause du gel de subventions publiques. Où en sont véritablement les finances du Rassemblement national? Anne Fauquemberg a sollicité notre consoeur de Mediapart, Marine Turchi. L'Europe et ses frontières, l'Europe et ses réfugiés, ce sont là les deux piliers des argumentaires de Marine Le Pen, malgré verrou et hésitation des États européens. L'Aquarius a repris la mer hier à Marseille, l'Aquarius bien seul au large des côtes libyennes. Précision dans un instant de Marie-Pierre Verrou. Nous reviendrons dans cette édition sur les motivations des libérations massives des opposants au président rwandais Paul Kagame. Et nous nous rendrons à Moscou pour le bilan des manœuvres militaires russo-chinoises. À la fin du journal, la face cachée du Globe, Nabila Hamel s'attarde ce dimanche sur l'évocation douloureuse du passé du Chili. L'Aquarius a donc repris la mer après avoir été immobilisé plusieurs semaines pour changer de pavillon. Le bâtiment affrété par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières va de nouveau patrouiller au large des côtes libyennes pour secourir les embarcations de réfugiés. Il devrait être le seul navire d'ONG sur place depuis le 26 août. En effet, tous avaient quitté la zone. Jamais les navires de sauvetage n'avaient été si longtemps absents de Méditerranée. Marie-Pierre Verrou.
Découragés par les politiques restrictives européennes, Italie et Malte en tête qui ont fermé leurs ports, en butte aux tracasseries judiciaires, aux multiples inspections administratives, la plupart des ONG ont renoncé. Ce sont les gardes-côtes libyens qui interceptent les embarcations de migrants dans des conditions difficiles. Au moins une centaine de noyés, selon des témoignages recueillis par Médecins Sans Frontières lors d'une récente tentative de traversée. L'arrivée de l'Aquarius permettra d'aider à sauver des vies, mais pas seulement, explique Frédéric Penard de SOS Méditerranée.
On se rend compte qu'avec l'absence de navires civils et de navires des ONG, c'est non seulement des capacités de secours qui sont absentes, mais c'est aussi la capacité d'avoir des témoins sur place et de continuer sans relâche à dire ce qui se passe en Méditerranée centrale. Sur l'Aquarius, il y a toujours eu des journalistes à bord et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous également. Toutes ces traversées, toutes ces histoires ne sont pas juste des chiffres de gens qui partent, de gens qui meurent, ce sont des histoires individuelles qu'on essaye tant bien que mal de porter sur la place publique pour que cette question essentielle qui est l'assistance à personne en danger reprennent la priorité sur toute autre considération.
Humaniser quand l'Europe scelle ses frontières toujours plus meurtrières. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, on déplorait l'année dernière un mort pour 42 migrants tentant la traversée. C'est désormais 1 pour 18. Plus de deux fois plus.
Découragé par les politiques européennes restrictives, disiez-vous Marie-Pierre, tout en citant l'Italie, eh bien à Fréjus tout à l'heure, gageons que Marine Le Pen à la tribune citera le nom de son meilleur ami du moment, le ministre italien de l'Intérieur et leader de la Ligue, Matteo Salvini, qui n'oublie jamais de stigmatiser les réfugiés et de les tenir à distance des côtes italiennes. La lutte contre l'immigration et le martyrisme, deux invariants du parti. Le Rassemblement National fait en effet sa rentrée à Fréjus dans le Var. Rentrée à moyen réduit à cause du gel de la subvention publique de 2 millions d'euros, pas d'université d'été cette année, mais un simple discours de la présidente cet après-midi à 15h. Mais il faut distinguer la part de réalité de celle du discours politique. La journaliste de Mediapart, Marine Turchi, spécialiste des finances du Rassemblement National, nous explique quelle est la réelle situation financière du RN.
C'est une tradition au Front National de pouvoir un petit peu attirer l'attention par ses problèmes de quête de parrainage, par ses problèmes financiers, et ça permet justement du coup de dire que on masque les erreurs qui ont pu être faites de gestion au sein du parti par le fait que ce sont les affaires, le pouvoir nous persécute, c'est politique, et ça c'est la rengaine du Front National, aujourd'hui Rassemblement National, depuis très longtemps. Donc c'est quoi aujourd'hui la situation financière du Front National? Et bien tout simplement, il y a plusieurs problèmes qui se sont emmagasinés au fur et à mesure des années. Il y a une mauvaise gestion. Certains au Rassemblement National me disent aujourd'hui en interne que le trésorier n'a pas provisionné ce qui aurait dû être provisionné au fil des années, notamment pour rembourser le prêt russe que le parti a contracté en 2014. Donc il y a un problème de gestion. Il y a certains salaires qui ont été extrêmement lourds pendant la campagne, notamment un haut fonctionnaire, Jean Messia, a gagné plus de 12 000 euros net par mois, et ça c'est dénoncé en interne par les cadres. Et puis évidemment, il y a ces prêts à rembourser. Il y a le prêt russe de 9,5 millions qui doit être remboursé dans un an. Le parti a-t-il provisionné pour tout ça? Ça c'est une question qu'il faut poser au Rassemblement National. Donc aujourd'hui, toute cette situation n'est pas seulement le fait des 2 millions que la justice a demandé de geler. congolais. Et puis un point sur ces 2 millions, ces 2 millions ne sont que 10% de la subvention totale publique que touche le Rassemblement national, qui est de plus de 20 millions d'euros. Donc c'est pas disproportionné et c'est une petite portion, contrairement à ce que dit Marine Le Pen, toute la subvention publique n'a pas été gelée. Donc il y a une exagération manifeste du Rassemblement national pour fonder un appel aux dons et pour avoir aussi un petit peu d'intérêt médiatique en cette rentrée.
Marine Turchi de Mediapart a longuement échangé avec Anne Fauquemberg, entretien à découvrir sur franceculture.fr. Au Rwanda, quel calendrier pour une grâce présidentielle? L'opposante rwandaise Victoire Ingabire et le chanteur Kizito Mihigo ont été libérés hier. Ils étaient tous deux considérés comme des prisonniers politiques et d'opinion par les organisations de défense des droits de l'homme. À seulement un mois du sommet de la francophonie, au cours duquel le Rwanda espère voir sa candidate désignée, ces remises en liberté suscitent beaucoup d'interrogations. S'agit-il d'une coïncidence? Quelle stratégie pour Paul Kagame? N'y a-t-il vraiment rien de politique dans ces libérations, comme l'affirme le ministre de la Justice rwandais? Quelle finalité prêter à ces libérations? Clotilde Ravel a posé la question à Florent Gel, le responsable Afrique de la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme.
A priori, il y en a deux, très probablement, et c'est une raison qui est invoquée par beaucoup en ce moment, c'est de pouvoir donner le champ libre à sa ministre des Affaires étrangères qui se présente à la fin de l'année au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Avoir des opposants en prison, ça ne fait pas bon ménage avec ce poste prestigieux que brigue le Rwanda. Deuxième raison, puisqu'il n'y a pas que Victoire Ingabire ou Mihigo, il y a aussi 4000, un peu plus de 4000 prisonniers qui sont libérés. Et là, on voit plutôt une opération pour vider les prisons. Vous savez que le Rwanda a une surpopulation carcérale. Très probablement, le président Kagame veut un peu faire en sorte que le poids de ces prisonniers sur le budget national soit moindre, d'autant plus que le Rwanda fait face à une crise économique assez importante. Il y a des épisodes de famine, tout au moins de malnutrition dans plusieurs parties du pays, qui nécessitent évidemment une intervention urgente et des fonds pour soutenir l'agriculture.
Est-ce qu'on peut parler d'un début d'ouverture démocratique au Rwanda après ces libérations, ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un acte isolé qui ne remet pas du tout en cause la ligne du régime actuellement en place ?
C'est compliqué de le dire, ça reste a priori plutôt un geste politique symbolique, bien qu'une ouverture politique serait absolument nécessaire au Rwanda.
Les manœuvres militaires russo-chinoises se terminent ce week-end dans l'extrême-orient russe. Pendant 5 jours, 300 000 soldats russes et 3 200 soldats chinois se sont entraînés ensemble. L'objectif de Vladimir Poutine était double, montrer que ses troupes sont prêtes à n'importe quel scénario de guerre et profiter de l'intérêt international concernant ses exercices militaires pour consolider son alliance avec la Chine. C'est une correspondance de Moscou de Claude Brouillot.
Le commentaire en direct de l'officier russe se perd dans le sillage d'un Sukhoi 35, suivi du regard par Vladimir Poutine. À grands coups de canon, dans un déferlement de tirs de missiles et d'attaques d'hélicoptères, ces 5 jours de manœuvre aux frontières de la Chine et de la Mongolie ont permis au maître du Kremlin de délivrer un message essentiel. La Russie est prête à la guerre, mais seulement pour se défendre.
La Russie est un pays pacifique. Nous n'avons pas et ne pouvons pas avoir de projet d'agression. Notre politique extérieure correspond à des propositions de collaboration positive avec tous les pays qui sont intéressés. Voilà pourquoi, pendant ces manœuvres, des représentants de 59 pays du monde sont présents ici. Notre devoir pour notre patrie, c'est de protéger notre souveraineté, notre sécurité et nos intérêts nationaux.
Les observateurs internationaux, au nombre de 85 en revanche, n'auront rien appris sur les nouvelles stratégies expérimentées par les soldats russes après 3 années de guerre en Syrie.
Hong Kong se calfeutre avant les premières rafales du super typhon qui a balayé les côtes nord de l'archipel des Philippines. Les sauveteurs ont été déployés là, dans les régions rurales et vallonnées les plus touchées. 100 000 personnes ont fui leur domicile. Il est 12h39, vous écoutez le journal de France Culture et c'est l'heure de la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. 6 responsables de l'opposition congolaise, dont 2 candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain, dénoncent la machine à voter imposée par la commission électorale en RDC. Ils posent 9 préalables à respecter pour éviter une parodie d'élection qui pourrait conduire au chaos. Un texte commun a été signé à Bruxelles mercredi. Un bureau de liaison conjoint entre les deux Corées, inauguré vendredi dans la localité nord-coréenne de Kasong. Il fera fonction d'ambassade puisqu'il permettra à Pyongyang Pyongyang et à Séoul de communiquer 24 heures sur 24 directement et non plus par fax ou par téléphone. C'est un nouveau signe de rapprochement avant la visite à Pyongyang mardi du président sud-coréen Moon Jae-in. Un seul thème ce dimanche, le regard que portent certains pays d'Amérique latine sur leur passé. Au Chili, on commémorait mardi les 45 ans du coup d'État du 11 septembre 1973 contre le président socialiste Salvador Allende. Aujourd'hui, le pays est divisé lorsqu'il s'agit d'aborder la dictature du général Pinochet qui a fait plus de 3000 morts et disparu. Un exemple, la récente décision de la Cour suprême d'accepter les demandes de liberté conditionnelle déposées par 7 criminels de la dictature a été saluée par une partie de la droite, mais, Justine Fontaine, elle a tout autant suscité l'indignation de la gauche et des familles des victimes.
Les familles sont d'autant plus en colère que ces hommes n'ont jamais exprimé de regret pour les crimes commis sous la dictature. L'armée et la plupart des condamnés dans ces affaires ne collaborent pas avec la justice pour aider à retrouver les corps des près de 1000 opposants toujours portés disparus. Et une grande partie de ces condamnés sont incarcérés dans une prison spéciale avec un terrain de tennis, une équipe médicale dédiée, alors que de nombreux Chiliens peinent à accéder aux services de santé au quotidien. Les familles des victimes demandent donc le transfèrement de ces anciens agents de la dictature vers d'autres prisons. Elles ont par ailleurs obtenu l'appui de plusieurs députés de gauche pour tenter de faire révoquer les juges de la Cour suprême qui ont autorisé la libération de ces 7 criminels de la dictature. Le président de droite, Sébastien Piñera, avait gracié cette année pour la première fois un criminel de la dictature qui est mort en prison avant de recevoir la nouvelle. Mais la coalition au pouvoir est en fait divisée au sujet de cette période. Sébastien Piñera répète qu'il a voté contre le maintien au pouvoir du général Pinochet en 1988. Et ce mardi, au palais présidentiel, il a commémoré sobrement l'anniversaire du coup d'État sans les partis de sa coalition, car dans son camp, certains ne cachent pas leur sympathie pour l'ancien dictateur, mort en 2006 sans jamais avoir été jugé. Le mois dernier aussi, le nouveau ministre de la Culture a dû démissionner car dans une interview accordée il y a 2 ans, il qualifiait d'imposture le musée de la mémoire et des droits de l'homme de Santiago, construit pour commémorer les crimes de la dictature.
Au Pérou, le président Martin Vizcarra a promulgué il y a quelques jours la loi créant une banque de données génétiques. L'objectif est de faciliter l'identification des milliers de personnes disparues entre 1980 et l'an 2000, pendant la guerre interne entre l'État et les guérillas du Sentier Lumineux et du mouvement Tupac Amaru. C'est un reportage d'Éric Sanson.
Il y a officiellement 20 329 personnes disparues au Pérou, mais leurs familles sont aussi des victimes. Juana Carrion, par exemple, recherche toujours ses 2 frères, une souffrance quotidienne.
On ne pouvait pas bien dormir, bien manger, bien vivre, car nous n'avons jamais arrêté de les rechercher. Je sais qu'avec les lois récemment approuvées, nous allons les retrouver et être enfin tranquilles.
Les autorités péruviennes estiment qu'il y a près de 15 000 fosses communes au Pérou. Quand des cadavres sont trouvés, ils peuvent parfois être identifiés si les familles reconnaissent un objet ou un vêtement. Mais parfois, il n'y a rien, d'où l'importance de la banque de données génétiques, selon le ministre de la Justice, Vicente Ceballos.
Une loi qui vient à...
Cette loi vient éliminer un grave problème. Notre impossibilité à identifier les cadavres retrouvés faute de données génétiques de leur famille. Nous disposons aujourd'hui de cet outil.
Dans les prochains mois, le ministère va commencer à accumuler les données génétiques des familles de disparus. Il est plus que temps, selon Juana Carrion, présidente de l'association des familles de détenus séquestrés et disparus.
Il y a déjà de nombreuses mères de famille qui sont mortes. D'autres parents sont très âgés aujourd'hui. Tous avaient besoin et ont encore besoin de trouver leurs proches disparus pour pouvoir les enterrer. Mais nous n'avons pas pu les retrouver et les identifier, car nous n'avions pas cette banque de données génétiques.
Au-delà de l'identification des disparus, cette loi répare aussi une ancienne injustice, selon le président Martin Vizcarra.
La violence nous affecte à tous.
La violence nous a tous touchés, mais les plus affectés sont ceux dont un membre de la famille est porté disparu. Bien que 20 ou 30 ans aient passé, beaucoup continuent leur chemin de croix à la recherche de leurs proches, et souvent sans les ressources techniques leur permettant de les identifier.
Outre la création de la banque de données génétiques, une loi a également été votée il y a 2 ans pour accélérer la recherche de personnes disparues au Pérou.
Éric Sanson, notre correspondant au Pérou. À dimanche prochain.
Merci Nabil Hamel. À dimanche prochain, la face cachée du globe à retrouver sur franceculture.fr. Un grand artiste algérien vient de disparaître, un maître de la musique kabyle, Jamel Alam, est décédé à Paris à l'âge de 71 ans. هذه تشاليد الدنيا تتابعها
هادي شنو غيمة عزيز هادي مغول هادي والي هادي تشالي الدني فاتي والي يوتا بحال دي فطي واج بحال يوسادة دي فرا أكيني وعبودي يماس يماس.
Salimo, l'un des titres phares de Jamel Alam, infatigable ambassadeur en Europe et en Amérique de la chanson kabyle moderne. Le temps de ce dimanche chaud et bien ensoleillé. Cette édition a été préparée avec Martin Descloseaux, à la technique Anthony Thomasson.